Aujourd'hui, c'est la panique. On ne sait pas ce qu'on fait, s'il y a des arbres coupés, s'il faut les ramasser.
Des arbres tombés au sol et un réveil dans le noir après une soirée aux chandelles, au sens propre, pour des dizaines de milliers d'habitants du Sud-Est privés d'électricité à cause de la neige. S'ils nous écoutent ce matin, c'est soit dans leur voiture, soit sur une vieille radio à piles électriques. On vous souhaite bon courage.
Eux vont souffler demain leur première bougie. Ce sont bien sûr les Gilets jaunes qui se mobilisent à nouveau pour ce qu'ils appellent le 53e acte de leur colère.
Si j'ai le gilet jaune à l'arrière, c'est toujours pour le pouvoir d'achat, ce qui n'a pas spécialement augmenté pour ma part.
Et puis un mouvement qui a beaucoup coûté budgétairement et politiquement au gouvernement. Plus de 2,5 milliards d'euros, c'est le chiffrage, en tout cas, analyse dans un instant.
Un homme soupçonné d'actes pédophiles arrêté grâce à l'intervention d'un passant qui l'a surpris sur le fait à Valenton, dans le Val-de-Marne. Les habitants du quartier sont soulagés.
Plus un tube de la musique classique revisité, les 4 saisons de Vivaldi qui ont pris un coup de réchauffement climatique dans la partition. Vous allez entendre un extrait très étonnant dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand le manteau blanc de la neige vous plonge dans le noir, 190 000 foyers d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence sont coupés du réseau d'électricité à cause des intempéries. Élise Dangean, vous êtes en ligne en direct de Valence, dans la Drôme, où la couche de neige est encore assez épaisse ce matin.
Oui, le paysage reste encore très blanc ce matin à Valence et aux alentours. Les déneigeuses s'activent, notamment sur les axes principaux pour les rendre praticables. Sur le bord des routes, de nombreux arbres couchés. Patrick est jardinier au service des espaces verts de Valence et pour lui, c'est une grosse journée qui s'annonce.
Aujourd'hui, c'est la panique. On ne sait pas ce qu'on fait, s'il y a des arbres coupés, s'il faut les ramasser. Et puis hier, on a fait une intervention partout. Pour ramasser les branches mortes. Le maire a dit qu'on a perdu 80% du parc floral. On va couper, on va essayer d'en sauver quelques-uns, quoi.
Et ce matin, dans les rues de Valence, les voitures sont peu nombreuses. J'ai croisé plusieurs habitants qui m'ont confié préférer limiter leurs déplacements en attendant un retour à la normale.
Élise Dangean dans la Drôme pour Europe 1. L'entreprise Enedis devrait faire un nouveau point sur le rétablissement des lignes électriques à la mi-journée. 2000 de ses agences sont déployées sur le terrain. J'ajoute que pour les trains, le trafic des TGV entre Grenoble et Valence est interrompu.
Autre événement naturel qui a causé de gros dégâts, le séisme du début de semaine dans la vallée du Rhône du côté de Montélimar. Le gouvernement débloque une enveloppe de 2 millions d'euros.
L'argent ira à la reconstruction des bâtiments sinistrés, notamment les infrastructures publiques, pour que les services locaux puissent être maintenus.
Un an après, on y est encore. Les Gilets jaunes, de nouveau aujourd'hui dans la rue.
Leur mouvement avait commencé le 17 novembre 2018 et les annonces du gouvernement et du président en décembre, puis à nouveau en avril, sont loin d'avoir apaisé leur colère. Théo Manval est allé à leur rencontre à Pau.
Si j'ai le gilet jaune à l'arrière, c'est toujours pour le pouvoir d'achat, ce qui n'a pas spécialement augmenté pour ma part.
Ouvrier tourneur-fraiseur, ce trentenaire sera du cortège cet après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques. Comment s'arrêter là, alors que les revendications originelles, dit-il, n'ont pas reçu de réponse?
Faut pas lâcher. Le premier mot d'ordre à l'époque, c'était le carburant. Il était censé descendre un peu. Aujourd'hui, ça fait un an et il est toujours au même niveau. Si on pouvait au moins commencer par ça, ça serait positif pour le mental.
Car beaucoup disent ne rien avoir vu venir des 10 milliards d'euros de mesures annoncées par le gouvernement il y a un an. Arnaud est infirmier en libéral. Pour lui, ni prime d'activité, ni défiscalisation des heures sup. Il manifestera aussi tout à l'heure.
Par soutien pour tous ceux qui le font depuis un an et pour assurer quand même un niveau décent à la classe moyenne. Quoi. J'ai été quelqu'un qui a toujours travaillé depuis l'âge de 21 ans. Vous voyez, là, j'ai passé 3 mois où j'ai fait que des missions d'intérim. Mais si vous n'avez pas d'argent de côté aujourd'hui, vous êtes pris à la gorge tout de suite. La classe moyenne est en train de devenir classe pauvre.
Classe moyenne une nouvelle fois dans les rues, mais aussi retraités comme Noël. S'il ne devait avoir qu'un seul slogan aujourd'hui...
Relever le SMIC. Ça, il ne sera pas relevé, mais bon, ça ne coûte rien de le dire. Il faut continuer.
Et au-delà de cet après-midi, ils sont déjà nombreux à donner rendez-vous le 5 décembre pour la journée nationale de mobilisation. À Pau, Théo Manval, Europe 1.
Alors, quelle sera l'ampleur des manifestations prévues aujourd'hui et aussi en partie demain? En tout cas, 270 actions sont recensées partout dans l'Hexagone. Les autorités ont à nouveau, bien sûr, prévu un très gros dispositif de sécurité.
Il y a eu depuis le début du mouvement 10 000 gardes à vue. Il faut dire que les images de l'intérieur de l'Arc de Triomphe détérioré ont fait le tour du monde, tout comme celles des voitures incendiées dans les plus grandes villes de France.
Au-delà des images, le mouvement a eu un coup politique très important, en particulier pour le président de la République. Écoutez, l'analyse pour Europe 1 de David Doucan.
Les gilets jaunes ont mis un coup d'arrêt au bulldozer Macron. Il avait, pêle-mêle, assoupli le droit du travail, durci l'assurance chômage et réformé la SNCF en à peine un an et demi. Au prix, parfois, de laisser sur le côté les partenaires sociaux et les élus locaux. Le président, qui a sincèrement eu peur lors des événements de décembre, a sauvé son quinquennat avec le grand débat. Problème, c'est maintenant le grand débat permanent. Emmanuel Macron, élu pour décider, se retrouve contraint au dialogue sans fin. Au risque, comme c'est le cas en ce moment, sur les retraites, de générer de l'angoisse, tant le flou plane sur la réalité de ses intentions. Et puis, il y a un autre changement dû aux gilets jaunes. On a trouvé l'argent magique, celui qu'Emmanuel Macron évoquait au début du quinquennat pour justifier une politique d'austérité budgétaire. Finalement, il existe. 17 milliards débloqués en deux claquements de doigts pour le pouvoir d'achat. Et le chef de l'État n'attend plus pour sortir le carnet de chèques. Sur l'hôpital, il annonce des investissements massifs dont on connaîtra le détail mercredi. Dans son interview à The Economist, Emmanuel Macron dit que la règle des 3% appartient à un autre siècle. Un slogan qui aurait tout à fait trouvé sa place sur un rond-point l'hiver dernier.
David Doucan, chef du service politique d'Europe 1. Et comme en écho à cette actualité des Gilets jaunes en France, des manifestations ont eu lieu hier soir dans plusieurs villes d'Iran après l'annonce par le gouvernement d'une hausse du prix de l'essence. Un dépôt de carburant a notamment été attaqué à Sirjan dans le centre du pays.
Dans un instant, la suite du journal. Avec cette affaire étonnante et dramatique dans le Val-de-Marne, un pédophile a été surpris en pleine agression d'une fillette et il a pu être interpellé grâce à des témoins qui sont intervenus.
Europe 1, il est 8h07.
Europe 1.
Reprise de votre actualité avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, on reparle de la petite Evaëlle, cette malheureuse adolescente de 11 ans qui s'est suicidée après avoir été, semble-t-il, harcelée dans son collège.
Selon le journal Le Parisien, une enseignante contre qui les parents d'Evaëlle avaient porté plainte a été placée en garde à vue.
Et on en vient à cette affaire de Valenton, c'est dans le Val-de-Marne, et un homme a été surpris sur un parking en train de commettre une agression pédophile.
C'est un passant qui a donné l'alerte en voyant le suspect dans une voiture avec une petite fille. Les précisions pour Europe 1 de Pierre Herbulot.
Le sauvetage de la fillette tient à une conversation qui dure un peu plus longtemps que prévu sur le parking d'un supermarché. Franck discute avec son cousin quand il voit cette voiture se garer en face de la sienne. Une scène anodine au départ.
Il n'y avait rien de suspect, il y avait un monsieur devant, une petite fille derrière. Quand tu as parlé avec mon cousin, et quoi, 15 secondes plus tard, ben, je regarde et je vois le monsieur, il est derrière avec elle. Je commence à trouver ça un peu louche. Et on voit à un moment, il lève la tête. Il regardait s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait pour le déranger ou quoi que ce soit. J'ai compris que c'était bizarre. Je suis parti directement à leur voiture, mais j'ai ouvert la porte. Et après, il était en train de remonter son pantalon et la petite aussi, quoi. Je ne m'étais pas trompé, et puis voilà, quoi.
Il appelle la police, retient l'agresseur et le filme. La vidéo finit sur Internet. Regrettable pour Franck, qui affirme que le seul but était d'avoir une preuve pour la police. Mais dans l'immeuble où vit le sexagénaire, les voisins ne veulent retenir que l'essentiel. La petite fille est saine et sauve.
Franchement, je voudrais lui dire merci beaucoup et franchement, un grand respect. Un grand respect. On le respecte tous.
Franchement, merci beaucoup. Nous sommes des adultes, mais merci pour notre enfant.
Franck espère, lui, que cet événement servira d'exemple. Il faut être vigilant, dit-il. Il affirme que plusieurs personnes sont passées avant lui devant la voiture sans rien voir de ce qui s'y tramait.
Pierre Herbulot pour Europe 1. C'était la dernière fabrique de charentaises en Charente. La manufacture charentaise située sur la commune de Rivière et ses 104 salariés est placée en liquidation judiciaire.
Vous n'allez sans doute pas en croire vos oreilles, mais tous les débutants le savent, en violon, on a forcément essayé de jouer les 4 saisons de Vivaldi quand on s'essaye au violon, mais jamais on a essayé de jouer comme ça.
Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver du compositeur italien ont été recomposés pour tenir compte du réchauffement climatique. Alors l'harmonie est forcément un peu plus dissonante, c'est même un petit peu glaçant. Musique, maestro et explication, Thierry Geffrotin.
Voilà comment Vivaldi a mis le printemps en musique. Dans la version actualisée, le contraste entre le printemps et l'été s'estompe. Les notes imitant le chant des oiseaux ont disparu et les passages harmonieux deviennent chaotiques. Ces nouvelles 4 saisons, on les doit à une équipe composée d'informaticiens et d'arrangeurs musicaux. Un travail minutieux mêlant l'art et la science. Les données climatiques ont été fournies par des instituts de recherche et des agences de l'environnement. La nouvelle partition prend donc en compte l'augmentation de la température mondiale, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes et leurs conséquences, notamment l'extinction de certaines espèces d'oiseaux et d'insectes. En 1725, Vivaldi avait joint à sa partition des poèmes qu'il avait écrits lui-même et qui décrivaient la nature, ce qui donnait par exemple « Voici le printemps que les oiseaux saluent d'un chant joyeux. les 4 saisons 2019 sont nettement moins bucoliques.
Voilà, vous êtes bien sur le répondeur de Thierry Geffrotin, vous pouvez laisser un message.
Et à 8h12, c'est votre journal des sports avec François Geffrier.
Très très belle affiche de football cet après-midi, on va retrouver les stars que toute la France a encouragées en juin dernier.
Et il s'agit de foot féminin, ces stars, ce sont les joueuses de l'Olympique Lyonnais et du PSG qui forment une bonne partie de l'effectif de l'équipe de France. Les deux clubs seront face à face à 17h30 en septembre lors du Trophée des Championnes. Lyon l'avait emporté au tir au but, alors la parisienne Grace Gayoro a hâte d'en découdre aujourd'hui.
C'est un très gros match, on est deux équipes qui se disputent chaque année le titre. On sait que forcément, on est des équipes qui se respectent, mais qui, quand on joue contre, on a envie de gagner forcément. Ouais, c'est des matchs intéressants à jouer. Et c'est des matchs qui permettent aussi d'acquérir de l'expérience et de progresser. Donc on aime bien jouer ce genre de rencontre. Et on sait que ça reste un match quand même pour la première place. Donc ça a un peu la guerre aussi.
Grace Gayoro au micro européen de Cyril Lamorinerie, match à 17h30. À 17h30 également, un match de Coupe de France, cette fois en foot masculin, deux clubs de Ligue 2 face à face, Guingamp-Lorient.
Le rugby s'est reparti après la Coupe du Monde, voilà la Coupe d'Europe.
Toulouse s'est imposée contre Gloucester hier 25-20, La Rochelle reçoit les Anglais d'Exeter à 16h15 et Clermont accueille les Londoniens Harlequins à 18h30.
Et l'événement rugby, c'est aussi sur Europe 1 ce soir, Serge Blanco, une légende de l'Ovalie, 93 sélections en bleu, il sera face aux auditeurs.
Serge Blanco qui est parfois un peu bouche bée par le rugby qu'il regarde aujourd'hui.
Des fois, je me dis, tu n'as pas pratiqué ce sport. Hein. Non pas en termes de technique, mais en termes de combat. C'est rude. Voilà, je pense que le rugby a changé parce qu'il va plus vite, parce que les règles ont changé. C'est-à-dire que si vous amenez un personnage d'autrefois à rentrer dans la culture moderne, peut-être ça sera très difficile. Il faudrait poser la question, est-ce que ceux de maintenant seraient capables de jouer à notre époque aussi? Mais honnêtement, ce que je peux vous dire pour... fermer le banc, c'est que je suis plus heureux d'avoir joué à mon époque.
Serge Blanco, dans cet extrait de l'émission Face aux auditeurs, c'était un avant-goût, car l'intégrale, c'est ce soir à 20h sur Europe 1. Deux infos en bref pour finir. Le basket, avec l'exploit de Villeurbanne en Euroleague hier soir, vainqueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, 74-72, alors que l'Asvel n'a jamais mené pendant le match jusqu'à la prolongation. Et puis la boxe, le français Arsène Goulamirian conserve son titre mondial WBA des lourds légers en battant l'Australien Kane Watts par KO, c'était hier à Bercy.
Journal de 8h. Très complet, présenté par François Geffrier. Il revient à 9h. À tout à l'heure, François.
À 8h15. Passez une bonne matinée avec Europe 1. Europe 1.